Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, les Français pensent que... Bonjour Martial Foucault.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de sciences politiques, spécialiste des questions de comportement électoral. Vous êtes le directeur du CEVIPOF, Centre d'études de la vie politique de Sciences Po, et vous avez notamment signé, en tout cas co-signé, c'était l'an dernier aux presses de Sciences Po, Ville de gauche, ville de droite. 1 932 884 contributions en ligne, 10 134 réunions locales, 16 337 communes ayant ouvert des cahiers citoyens et environ 1,5 million de participants. Tels sont les chiffres de la participation au grand débat national. Alors de cet échantillon hors du commun, le gouvernement a établi une synthèse. Il annoncera bientôt des mesures censées répondre aux attentes des Français. Oui, mais qui sont ces Français qui se sont exprimés dans le cadre de cette consultation? À première vue, le nombre plaide pour une bonne représentativité de la population. Mais après examen, il apparaît que de nombreuses catégories manquent à l'appel. Alors pour savoir ce que pensent les Français, peut-être faut-il revenir à la méthode plus classique des enquêtes d'opinion. Si elles sont loin d'échapper à tout reproche, notamment du point de vue de leur méthodologie, du moins répondent-elles à des processus que le temps a permis d'éprouver. Elles sont en tout cas devenues des outils indispensables au monde politique, sans doute autant pour connaître l'état de l'opinion que pour y trouver des éléments de légitimation. Si c'est le peuple qui le dit, c'est la preuve que nous avons raison. Alors les Français pensent que, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Martial Foucault. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir si cette catégorie des Français est une catégorie qui a un sens du point de vue de la science politique.
Oui, c'est une catégorie qui fait l'objet de finalement de beaucoup de travaux. Il n'y a pas de consensus. Vous avez rappelé en introduction l'ensemble de ces sources collectées pendant le grand débat est un échantillon hors du commun. Et c'est vrai que la volonté, elle est ancienne, au moins depuis le XVIIIe siècle, où les gouvernements aimeraient connaître ce qui se cache derrière le cerveau de chaque citoyen. Et c'est une volonté parfois qui peut être qualifiée de totalisante. Surtout au XVIIIe siècle, les outils ne permettaient pas de pouvoir mesurer ce que les Français pensent. Et volontairement, j'emploie pas encore le terme d'opinion. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé progressivement dans le débat public. Rousseau parle de l'esprit public. Cette expression est intéressante parce que derrière l'esprit public, c'est une notion relativement apolitique. Ça touche à la fois les éléments culturels, les éléments très sociologiques. Et il faut bien voir que quand on cherche à savoir ce que pense une communauté et que l'on glisse au cours du 19e et surtout du 20e siècle sur la notion d'opinion publique, on fait un raccourci parfois dangereux à penser que ce que l'on va retenir de ce qu'une communauté pense, ça reflète l'ensemble des opinions. Et c'est là où il y a un point de bascule qui aujourd'hui au XXe siècle, c'est vrai qu'opinion publique c'est rentré dans le langage commun.
Et aujourd'hui au XXIe siècle. Hein.
Alors je dis XXe siècle, c'est parce que c'est à ce moment-là où l'opinion, on est basculé dans une notion extrêmement philosophique à une notion beaucoup plus proche des sciences politiques, mais aussi d'une industrie sondagière.
Alors est-ce que Édouard Philippe, lundi dernier, au Grand Palais, était dans le raccourci, en tout cas pour la restitution par le Premier ministre des éléments du grand débat national? Il a beaucoup été question de ces fameux Français.
Les Français ne veulent pas du yaka faucon. Ils ne nous disent pas seulement qu'il faut baisser les impôts, ils ne nous disent certainement pas qu'il faut creuser la dette, ils nous encouragent à prendre des responsabilités, à prendre des décisions. Les Français nous demandent des choses simples. Les Français n'ont pas été simplistes. Certains annonçaient la fin de la démocratie représentative et l'avènement de ce qui aurait pu être une forme de démocratie directe et médiatique permanente. Ce n'est pas ce que les Français veulent. Ils sont exigeants. Ils veulent une démocratie plus représentative. La dernière exigence est une urgence. Une urgence climatique dont les Français ont une claire conscience. Les Français, à la différence de nombreux autres peuples, ne sont pas climato-sceptiques. Nos concitoyens nous disent qu'ils sont prêts à changer de comportement. En revanche, ils ne veulent pas, ils ne veulent plus que des taxes leur dictent ce qu'ils doivent faire.
Voilà, vous l'avez compris, il s'agit d'un montage, hein, Martial Foucault. On entend le Premier ministre donc évoquer à plusieurs reprises les Français. Tout le monde sait très bien qu'étant donné la diversité des opinions, on ne peut pas réduire une pensée, un point de vue à l'ensemble de la population française. Et pourtant, il le fait. Et pourtant, les politiques le font. Pour quelle raison? Est-ce que ça permet de légitimer sa parole? Est-ce que ça permet de faire taire toute contestation? Ça sert à quoi de parler des Français comme ça?
Il y a certainement à la fois de la légitimation d'un discours public qui reposerait sur une scientificité fondée sur une représentativité d'une communauté diverse. Et puis, c'est aussi une manière de construire un agenda politique pour lequel il serait mal à l'aise pour une partie de cette communauté de se mettre un petit peu en dehors d'un sillon tracé par le politique, entendu que si les Français, et je reprends les formules d'Edouard Philippe, si les Français nous disent que, les Français nous ont indiqué que, c'est-à-dire que chacun ferait un travail de réflexivité en disant « mais est-ce que j'appartiens bien à cette communauté si il y a un tel consensus autour d'une position ?» Ce qui, finalement, conduit un peu, j'irais à l'image d'un rouleau compresseur, un exécutif à installer subrepticement dans la tête de chacun que s'il s'éloigne de cette tendance, eh bien c'est eux qui ne seraient pas dans le vrai. Et c'est là où c'est une erreur assez grossière de faire dire, et surtout à cet outil du grand débat, ce que aurait été l'opinion des Français. On parle bien d'opinion. Et quand on exprime une opinion, c'est-à-dire on exprime une pensée individuelle. L'opinion publique, c'est un ensemble de valeurs morales, sociales, dans ce qui constitue une communauté. Or, c'est pas la même chose de dire, et on a vu les questionnaires qui étaient ceux du grand débat, avec des questions fermées, des questions ouvertes. Forcément, si vous posez une question, quelle est votre profession? C'est quelque chose d'objectivable. Il n'y a pas d'opinion. En revanche, quand on vous pose une question, seriez-vous prêt à faire un effort pour lutter contre le réchauffement climatique? Là, on exprime une opinion. Et je crois que l'erreur qui a été commise par Edouard Philippe, mais il n'est pas le premier, il sera certainement pas le seul, c'est de penser que l'agrégation de pensées individuelles fonde une opinion publique. Et du coup, ça veut dire qu'on perd toutes les nuances, la diversité et parfois même le désaccord sur ce qui sera une opinion publique, un esprit public à un moment donné.
Alors pour autant, cette diversité, on imagine qu'elle a fini par apparaître dans les résultats, dans les contributions, dans les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de ce grand débat national, Martial Foucault. Est-ce qu'au moins, en tout cas, sur la méthode, c'est-à-dire plutôt que de passer, on va y venir, aux enquêtes d'opinion et aux sondages, mais l'idée d'organiser un grand débat multi-thématique pour essayer de savoir ce qu'attendent les Français, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît pertinent, peut-être relativement novateur pour justement être en mesure de répondre aux attentes des citoyens?
Je dirais qu'on est en train d'observer les limites de l'exercice. Soit le grand débat a été conçu comme un moment où on essaye de créer des espaces où la parole peut être prise par des citoyens qui n'ont pas l'habitude d'être entendus et pour lesquels ils sont rarement interrogés. Soit on utilise l'ensemble des éléments rassemblés pour concevoir un discours politique. Et je crois que aujourd'hui, on a oublié qu'il y avait une étape intermédiaire qui était de s'assurer que l'ensemble des expressions verbales, des expressions écrites qui ont été rassemblées, sous quelles conditions elles peuvent constituer une réponse politique au moins majoritaire, mais idéalement unanime, de ce que serait aujourd'hui la demande sociale des Français.
Mais pour vous, ça pose quoi? Ça pose la question de la représentativité de ceux qui se sont exprimés, ou bien ça pose, mais c'est peut-être les deux d'ailleurs, la question de l'interprétation des données qui ont été recueillies?
Oui, la question de la représentativité, ça pose aussi la question de la possible instrumentalisation de ce matériel rassemblé pour faire dire à une communauté ce qui, au fond, elle n'aurait pas dit. Et ça contribue très clairement, non seulement à maintenir et à renforcer cette défiance politique en disant, on a un gouvernement qui veut faire preuve d'innovation en inventant cet espace de parole, mais la synthèse de ces expressions est résumée comme un entonnoir où finalement il n'y aurait eu qu'une parole et que la nuance a disparu, les contradictions auraient disparu, et surtout, et c'était la fameuse critique de Pierre Bourdieu dans « L'opinion publique n'existe pas », que chacun des Français aurait la même compréhension, la même acception des questions qui leur auraient été posées dans ce débat. Or, enfin, pour avoir observé un grand nombre de ces débats, on voit bien que, je prends l'exemple, puisqu'il a été beaucoup indiqué cette exaspération fiscale, ras-le-bol fiscal, non, c'est pas cela. Si on résumait l'ensemble des débats à l'exaspération fiscale, c'est précisément, ici, se tromper sur l'interprétation que l'on peut faire d'un tel outil d'expression publique qui n'est pas un sondage.
Et sur la question de la représentativité, Marcel
Et sur la
Foucault,
question de la représentativité.
Parce que donc vous avez encadré un groupe d'observateurs, hein, c'est ça, d'un certain nombre de débats.
Oui, on a observé près de 260 débats tirés au sort pour essayer de ne pas être accusé d'avoir introduit des biais dans la sélection des événements que nous avons observés. Ce sont les réunions locales. Et moi, je suis frappé de voir que la sociologie des participants à ces réunions locales est très éloignée des caractéristiques objectivables de la population française. Je prends juste un point de référence. Les données du recensement de l'INSEE. Bon, dans ces réunions locales, vous avez une moyenne d'âge de près de 60 ans, une absence très très forte des jeunes, c'est pas seulement les moins de 25 ans, c'est jusqu'à 40 ans. Les jeunes actifs de 30 à 40 ans ont déserté ces réunions locales. En termes d'éducation, on a plus de 60% des participants qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur. On est très très loin des chiffres nationaux. Et je poursuis sur un autre point qui est intéressant. Nous avions 75% de propriétaires. Moi, j'aime bien avoir cette dimension parce que ça permet de mesurer une autre forme de richesse matérielle. C'est seulement 58% aujourd'hui en France. Donc, partir de cette connaissance de ce qu'a été la sociologie, certes à grands traits, des participants au grand débat, et dire ensuite « les Français nous ont dit que », on commet des erreurs méthodologiques assez graves.
Est-ce que ces biais que vous relevez, Martial Foucault, du point de vue donc de la méthodologie, de la représentativité et ensuite l'interprétation, auraient été moindres si l'on avait mené une grande enquête d'opinion avec des mesures justement de représentativité, soit en prenant d'ailleurs des échantillons de manière aléatoire, soit en faisant en sorte que la population française soit la mieux représentée dans sa diversité.
Non, je suis pas certain ici que le sondage d'opinion publique aurait permis d'avoir des résultats plus justes sur le plan méthodologique.
Pourquoi ?
Parce que ça suppose d'avoir une population de référence, de savoir exactement si on fait un sondage sur une élection, enfin une intention de vote, on a besoin de savoir quel est le collège électoral français à ce moment-là. Donc on connaît la population de référence et on va choisir, selon différentes méthodes, mais la fameuse méthode qui prévaut en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, de l'échantillon représentatif, on veut créer une France miniature. Et donc on va utiliser la méthode des quotas, tant de jeunes, tant d'hommes et de femmes, etc.
En général, ça revient à un millier de personnes. Hein. C'est souvent ce qu'on voit dans les...
Oui, ce qui est, pour des raisons méthodologiques, n'est pas justifié. C'est un arbitrage plutôt entre le coût...
économique.
Voilà, le coût d'un sondage, et puis les ressources du commanditaire du sondage, et puis la validité scientifique. Mais je reprends le premier point. Est-ce qu'il y aurait une autre manière d'interroger ce qu'était la demande sociale des Français ? En fait, Édouard Philippe aurait pu tenir ce discours, mais en précisant... Les Français nous disent que, j'aurais remplacé cette formule par, les Français âgés en moyenne de 60 ans, sans jeunes, sans minorité visible, vivant plutôt dans des communes de moins de 30 000 habitants, nous ont dit que. Mais vous voyez que dans la formulation politique pour légitimer une réponse, ça introduit l'idée que c'est pas du tout représentatif.
Est-ce que d'ailleurs c'est de cette façon qu'il faudrait présenter systématiquement pas seulement les résultats du grand débat national, mais les différentes enquêtes d'opinion, pas seulement de la part des politiques, mais aussi de la part des journalistes, dans l'idéal?
Oui, dans l'idéal, lorsque l'échantillon n'est pas représentatif, en général, les sondages sont construits en visant à assurer cette représentativité. Donc il n'y a pas ce problème. Mais dans d'autres formes de collecte, de sondage d'informations, oui, quand il n'est pas représentatif, ça devrait être la règle minimale d'indiquer quels sont les trous dans l'échantillon. Parce que sinon, on fait dire à des personnes ce qu'elles non seulement n'ont pas dit, mais n'ont pas été interrogées pour ne pas le dire.
Voilà, et qu'elles ignoraient peut-être qu'elles avaient un avis sur le sujet avant qu'on ne leur pose la question. Vous évoquiez tout à l'heure la critique formulée par Pierre Bourdieu, référence à un article devenu célèbre, publié en 1972 dans les temps modernes, « L'opinion publique n'existe pas ». Il revenait sur sa critique des sondages et des enquêtes en 1986 dans une émission sur FR3, émission Histoire d'un jour.
Le problème du sondage, c'est qu'on ne peut pas en lui-même, enfin ça n'a pas de sens d'en dire du bien ou du mal. Et souvent les gens posent le problème comme ça, est-ce que vous êtes pour ou contre les sondages? Bon. En fait, ça serait une question de sondage, c'est une question idiote. Bon. Et un des effets principaux que produisent les sondages, c'est d'imposer à des gens des questions idiotes, bon, ou des questions qui n'intéressent que ceux qui les posent. Bon, alors comme les gens sont polis, en général ils répondent, et par le fait de poser certaines questions naïves d'un point de vue scientifique, enfin, on produit des réponses artificielles, on produit des artefacts. Même, indépendamment de ça, même quand ils répondent, leur réponse ne va avoir aucun sens, parce que n'importe qui peut dire oui ou non, c'est à la portée de n'importe qui, même à une question qu'il ne comprend pas ou qu'il ne se pose pas.
Alors Martial Foucault, je rappelle que vous êtes le directeur du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique de Sciences Po, la vie politique française. Ce qu'il dit finalement, c'est que on en apprend peut-être davantage quand il y a des enquêtes d'opinion politique sur ceux qui posent des questions, sur les commanditaires, donc très souvent justement des politiques, plutôt que sur ceux qui y répondent. Est-ce que vous partageriez cette approche-là?
Il y a trois critiques importantes et on peut les résumer très facilement. La première critique, c'est de dire, d'une certaine manière, toute enquête d'opinion publique supposerait que tout le monde a un avis sur une question. Et ça, il est totalement opposé. Deuxième critique forte, penser que toutes les questions se valent et que la compréhension des questions serait la même pour tout individu interrogé. Et puis la troisième critique où il dit c'est le postulat de base de l'ensemble des producteurs de sondages, c'est qu'il y aurait un consensus sur les problèmes. C'est-à-dire, poser une question sous-entendrait qu'il y ait un problème partagé. Alors, on peut corriger ces limites en faisant deux choses très simples. Un, la formulation d'une question dans une enquête, ça ne peut pas tomber du ciel. C'est-à-dire, il doit y avoir un travail scientifique justifiant pourquoi cette question est posée. Et je dirais que c'est peut-être ce qui oppose.
Il faut faire quoi? Il faut faire un sondage pour savoir quelle est la bonne question à poser?
Moi, je vais prendre un exemple très simple. On a mené au cours des années 2015 à 2017, dans le cadre de la campagne présidentielle, une enquête au long cours pendant plus de 2 ans où on a interrogé un panel de 20 000 personnes.
Vous dites « on », hein, c'est le CEVIPOF.
C'est le CEVIPOF. Sur un certain nombre de questions, il y avait un débat entre chercheurs en se disant « cette question formulée comme cela, elle ne sera pas comprise de la même manière par chacun ». Et ça, c'est une critique qui est soulevée par Bourdieu. La seule façon d'y répondre, lorsqu'on est dans le domaine de la recherche, et pas forcément dans un temps médiatique où des sondages sont commandités par des entreprises de presse, la seule façon d'y répondre, c'est précisément de soumettre à deux groupes différents des formulations différentes et voir si la robustesse de la formulation est au rendez-vous. S'il y a dissensus, ça veut dire que la question n'est pas bonne et il ne faut pas la poser. Alors vous voyez, c'est une démarche beaucoup plus de recherche et qui n'est pas le réflexe aujourd'hui des entreprises de sondage. Mais c'est comme ça qu'on devrait procéder à chaque fois.
Martial Foucault, les politiques sont très friands de sondages, d'enquêtes d'opinion, tout en les critiquant quand les résultats ne leur sont pas favorables. Ça pousse même d'ailleurs à un parti comme la France Insoumise à décider, c'était il y a quelques jours, de mener ses propres enquêtes dans la perspective des prochaines élections européennes, en considérant que voilà, ça donnera naissance à une autre réalité que celle qui sort pour l'instant des instituts de sondage qu'on connaît. Ils les critiquent beaucoup et en même temps, je le disais, ils en consomment beaucoup. On se souvient notamment des nombreux sondages qui avaient été faits par l'Élysée du temps de Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce que les politiques ont à ce point besoin de ces enquêtes, de ces sondages? Ça leur sert à quoi? Ça leur sert à mieux gouverner?
Je pense que s'il y a une surconsommation des sondages dans les partis politiques ou même parfois des candidats, je dirais que c'est à la fois le mythe de la démocratie de l'opinion qui l'a emporté, considérant que l'offre politique, le programme politique doit coller au plus près de ce que les Français penseraient. Finalement, ça veut dire ne pas faire un travail intellectuel et un travail programmatique en profondeur pour proposer un champ de politique publique. Et puis deuxièmement, c'est une manière quand même de rationaliser la raison pour laquelle on est candidat et on fait campagne. Parce que vous dites, c'est vrai qu'en général, la position classique des hommes politiques, c'est dire, un, les sondages, je ne m'en préoccupe pas, j'ai des convictions et donc je fais campagne ou je propose telle et telle chose. Et lorsqu'un sondage est défavorable à un candidat, alors là, on renforce son opinion initiale en disant, je m'en occupe pas. Lorsque le sondage est très favorable, en général, l'homme ou la femme politique déclare, vous voyez, j'avais raison. Et c'est confirmé par l'opinion publique. Donc, il y a une vraie schizophrénie par rapport à l'usage et à l'instrumentalisation qui est fait aujourd'hui des enquêtes d'opinion publique. Moi, je rêve d'une chose en tant que chercheur, c'est de pouvoir démontrer, parce que ça n'a jamais été fait, et c'est très compliqué, pouvoir démontrer quelle est l'influence des sondages d'opinion publique dans la formation des opinions politiques.
Alors justement, j'allais venir à cette question, parce que c'est vrai que c'est une critique qui est là aussi régulièrement formulée, c'est-à-dire l'effet performatif de certains sondages, notamment en période électorale. J'évoquais la France insoumise, il y a Jean-Luc Mélenchon justement, qui, il y a quelques années de cela, je ne sais pas s'il y a toujours la même position, mais était favorable à ce que l'on interdise tout sondage 2 mois avant une grande élection, parce que les résultats faisaient que les électeurs finissaient par se conformer à ce qui sortait des sondages. Alors, si j'ai bien compris ce que vous dites, Maria Cécile Foucault, c'est qu'il n'y a pas d'étude qui permet de dire si véritablement cet effet-là existe ou pas, mais en tout cas, c'est un risque que cela advienne. Et qu'est-ce que ça suppose, du coup, comme réflexion par rapport à leur usage?
Bon, tout d'abord, je pense que ces propos sont tenus parce que on a aussi une inflation du nombre de sondages. En 1981, c'est à peine 80 sondages d'opinion publique qui ont été conduits lors de l'élection présidentielle. En 2017, on a dépassé le seuil des 800 sondages d'opinion publique. Donc, il y a une inflation et on se dit, il y a une telle surexposition à ces enquêtes que le citoyen électeur serait guidé, s'il est indécis, par un positionnement au regard d'un résultat déjà annoncé. Et je crois que cette inflation de sondages contribue à introduire un mythe selon lequel les sondages d'opinion publique forment ou contribuent à la formation des opinions politiques.
Quand on évoque le vote utile, par exemple, c'est toujours au regard de certains sondages, de dire, par exemple, pour que tel candidat l'emporte à la présidentielle, il faut voter pour lui au premier tour ou lors des primaires, parce que c'est celui qui, d'après les sondages, a le plus de chances de l'emporter. François Hollande a peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, peut-être été élu président de la République au regard justement de ce vote utile. Donc, on peut imaginer quand même qu'il y a une véritable influence.
Alors, on peut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que, imaginons effectivement qu'il y ait une réglementation qui allonge la durée de publication des sondages avant un scrutin. Au Japon, par exemple, a une réglementation extrêmement stricte, rigoureuse sur les sondages. 2 semaines avant le scrutin, pas de publication. Qu'est-ce qui se produit dans ces cas-là? C'est-à-dire qu'on va trouver d'autres forums dans lesquels ces informations qui existent. Il ne s'agit pas d'interdire la publication, il s'agirait d'interdire la production de toute enquête. Or, un parti politique, un candidat, aura les ressources pour produire un tel sondage. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où le sondage est produit, il est diffusable. Et donc, il y a toutes sortes de sources pour pouvoir le diffuser. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y aurait simplement qu'une catégorie de personnes, plutôt des élites, qui auraient cette information et qu'une autre partie des Français, en l'occurrence ici, n'aurait pas accès. Aujourd'hui, on a des plateformes, des réseaux nouveaux, et on trouvera finalement la diffusion sur des réseaux sociaux. Mais peut-être que la rumeur urbaine s'emparerait de ces résultats. Et donc, je pense qu'on contribue à désinformer ou à surinformer, sous-informer les citoyens si on régule fortement. Donc moi, je préfère encore avoir un outil qui est réglementé, dont il faut peut-être contribuer à l'éducation dans l'interprétation des résultats, plutôt que d'interdire en disant « ça serait la démocratie absolue, parfaite, sans influence » et que, au fond, seuls les hommes et les femmes politiques sont capables de contribuer à la formation des opinions politiques. Je trouve qu'il y a trop de substituts pour que les sondages rejaillissent autrement dans l'arène publique.
Alors aujourd'hui, il y a quand même aussi peut-être un autre outil, notre dimension en tout cas, qui fait, qui en tout cas entretient cette crainte de voir sondages, des enquêtes influer finalement sur l'opinion de ceux qui en font l'objet. C'est par exemple le Big Data. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Et c'est du moins ce qui semble avoir eu lieu dans 2 scrutins de ces dernières années, 2 parmi d'autres, hein, mais aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Oui, puisque dans le cas de 2 votes que vous évoquez, donc le vote du Brexit au Royaume-Uni et l'élection de Donald Trump aux États-Unis, les camps qui ont emporté l'élection ont eu recours à des techniques très modernes de ciblage. Des messages politiques basés sur l'utilisation de données personnelles ont été diffusés sur les réseaux sociaux pour tenter d'influencer les électeurs en fonction, par exemple, de leur âge ou de leur sexe. Mais est-ce qu'on peut vraiment affirmer que le Brexit ou l'élection de Donald Trump ont été provoqués par l'utilisation du Big Data ? Pour le savoir, j'ai interrogé Romain Badoir, chercheur à l'Université Paris 2 et spécialiste de ces questions.
Alors, on peut pas dire que le Brexit a eu lieu ou que l'élection de Trump est directement liée à ce ciblage marketing sur les réseaux sociaux, parce que justement les études scientifiques qui portent sur l'influence de cette communication politique en ligne, elles ont des résultats qui sont beaucoup plus tempérés, elles tendent plutôt à montrer que cette influence, elle est limitée, que les gens qui y sont exposés ne se souviennent pas forcément avoir été exposés à de la communication politique, ou alors ne se rappellent pas pour quel candidat c'était. Et puis plus globalement, on se rend compte que ces nouvelles formes de propagande politique, elles vont d'abord toucher des convaincus, et donc ceux qui vont à leur tour partager ces informations sont d'abord ceux qui y croient, et en ce sens, la capacité d'influencer l'opinion pour la faire basculer, a priori, elle reste quand même aujourd'hui limitée.
Voilà, donc pas de quoi fouetter un sondeur. En réalité, l'utilisation du big data dans des processus démocratiques suscite les mêmes critiques que celles qu'on entend depuis longtemps sur les sondages d'opinion classiques. En 2007, par exemple, le socialiste Julien Drey expliquait que les sondages qui sont normalement des thermomètres étaient devenus des thermostats, qu'ils avaient donc un effet performatif. Est-ce que cela vaut aussi pour le big data ? On écoute Romain Badoir.
Si un parti politique utilise ses outils de ciblage pour diffuser de la communication politique sur des sujets très spécifiques et va par ce biais avoir le pouvoir d'occuper l'espace des fils d'actualité des internautes sur Facebook, ça va mettre à l'agenda des internautes, si je puis dire, l'idée que ces sujets sont importants et que le moment venu, lorsqu'il faudra se décider pour un candidat ou une candidate, ce qu'on aura vu sur les réseaux sociaux, il faudra se positionner par rapport à ça et faire un choix par rapport à ces sujets-là. Donc il y a un pouvoir d'influence direct qui est limité, mais un pouvoir d'influence indirecte via la création d'un espèce de bain informationnel où on ressasse toujours les mêmes sujets ou les mêmes prises de position. A priori, c'est plutôt par là que ça passe.
Et au-delà de ces critiques de l'utilisation du big data dans les élections, on peut se demander si ces techniques sont aussi utilisées de façon moins problématique, par exemple dans le fonctionnement classique d'une démocratie.
Ce ne sont pas forcément les conservateurs qui ont inventé ce type d'usage des données personnelles. Par exemple, Barack Obama, lors de sa campagne de 2008, avait aussi utilisé des grandes bases de données pour cibler des électeurs. Lui, c'était plutôt pour aller y faire du porte-à-porte. Mais ce principe de ciblage, on le retrouve dans tous les bords politiques, si je puis dire. Ensuite, l'utilisation des données. Alors, lorsque ce sont des données personnelles, effectivement, ça pose des questions essentielles de leur protection, de la protection des citoyens par rapport à des ingérences dans leur vie privée. Par contre, la manière dont on peut utiliser des grandes bases de données, notamment des bases de données publiques, c'est-à-dire des données qui sont récoltées par les administrations dans le cadre de leur mission de service public, ça peut être très utile en démocratie. Ça peut être très utile pour mieux connaître les problèmes sociaux, économiques, politiques d'un territoire particulier. Ça peut permettre de faire des corrélations avec d'autres types de problèmes pour identifier certaines causes. Donc le travail des données en lui-même n'est pas bon ou mauvais, c'est évidemment les usages que on va en avoir.
Voilà, Romain Badoir, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2. Il a publié en 2017 le Désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs, propagande aux éditions FIP.
Martial Foucault, une toute dernière question. Est-ce qu'on peut gouverner aujourd'hui sans connaître l'opinion ?
C'est un souhait pour le réenchantement démocratique dans des pays qui aujourd'hui sont soumis à des poussées populistes. Gouverner sans connaître l'opinion, c'est une tâche extrêmement compliquée. Mais on peut effectivement imaginer que les enquêtes d'opinion ne soient pas le principal et le seul instrument d'un agenda politique. C'est peut-être là où il y a eu un déplacement du curseur un peu trop sur une démocratie d'opinion plutôt qu'une seule démocratie représentative et utiliser d'autres mécanismes pour connaître ce que pense une communauté.
Merci beaucoup, Martial Foucault, d'avoir participé à cette émission politique, émission préparée par Antoine Dulster, réalisé par Émilie Vallat, avec à la prise de son aujourd'hui Nicolas Slimani, émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. À 12h45, vous allez retrouver Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 pour du grain à moudre et dans un instant, pardon, le journal de 12h30 sur France Culture.